Vous êtes membre de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et vous êtes aussi président du comité régional olympique et sportif. Quelle est la situation des clubs sportifs ?
La situation actuelle des clubs sportifs est évidemment déjà complexe et très difficile. Nous avons des activités qui nous sont interdites. On nous empêche de pratiquer l'essence même de notre métier. On a déjà des chiffres qui commencent à remonter, qui nous laissent présager que nous dépasserons moins 35% de licenciés. Je rappelle qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous représentons 12 600 clubs et 1 150 000 licenciés avant Covid. La première période, celle du premier confinement, avait déjà entaillé nos capacités de l'ordre de 15 à 25%. Je crains par anticipation et réalisme que nous arrivions à plus de 45% de défaillance, de réinscription.
Pourquoi c'est si important pour vous de perdre des licenciés ? Est-ce que c'est une partie importante de votre budget ?
Alors la partie importante du budget, oui évidemment, puisque c'est les seuls revenus que nous avons en direct. Et ces licences, nous y sommes très attachés, parce que finalement une licence c'est aussi une adhésion pour une année sportive. Et bien évidemment, on vient de vivre l'année dernière un bout de cette année sportive qui a été amputée. Et pour le coup, cette année, elle est complètement amputée, elle est même sans activité aucune. Donc, si votre question est de nous dire, est-ce que c'est notre principal revenu ? Non, évidemment que ce n'est pas notre seul revenu. Et on a aussi un gros soutien des collectivités, des communes, des départements, de la région, de l'État. Mais évidemment, si on n'a pas d'activité sportive, nous n'aurons plus ces soutiens. Il n'a d'intérêt de soutenir que s'il y a une utilisation du service.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse différence entre ce sport amateur des clubs sportifs et le sport professionnel où il y a quand même des entraînements, c'est ça ?
Alors, pour le moment, tous nos sportifs professionnels, nos sportifs sur les listes de haut niveau peuvent s'entraîner en toute liberté avec les adaptations, avec évidemment toutes les mesures sanitaires et de précaution. On a bien vu comment l'équipe de France de rugby a été frappée de plein fouet et rattrapée parce que deux ou trois entailles à un protocole très strict ont fait repousser le dernier match que nous verrons demain soir pour le tournoi Destination. L'idée, c'est que on est aujourd'hui effectivement le monde amateur totalement interdit de pratique. Mais bon, pas seulement, c'est pas le seul problème. On a à ce moment-là un développement des activités tutorées, des activités internet, donc par visio, et on se retrouve avec une double explosion. À la fois cette modernité du temps qui était en train de nous rattraper de toute façon, pour lequel nous n'avons pas de grandes craintes. Il suffit pour nous de prendre le temps et d'accélérer notre adaptation à ce monde numérique et ses envies de nouvelles pratiques. Mais ce qui nous inquiète, c'est aujourd'hui cette année complète sans les enfants qui sont des consommateurs licenciés captifs parce que les parents ne peuvent pas nous les amener. Et de fait, on a du mal à projeter effectivement comment est-ce qu'ils vont se réinscrire. En tous les cas, s'ils se réinscrivent, ils ne se réinscriront pas forcément dans la discipline d'origine qu'ils avaient.
Vous dénoncez une incongruité entre le fait que l'enfant, il peut pratiquer du sport à l'école, mais pas le soir avec son club.
Alors c'est une des difficultés, je ne veux pas non plus forcément jeter la pierre trop fort sur nos gouvernants et sur l'État, mais effectivement on a remarqué que c'est absolument ce que j'appelle l'incongruité. On ne comprend pas pourquoi une activité encadrée par des professeurs de sport de l'éducation nationale serait moins dangereuse qu'une activité encadrée par des diplômés d'État qui appliquent des normes et des protocoles qui sont parfois aussi drastiques, voire plus drastiques que ceux de l'éducation nationale en matière d'enseignement de nos disciplines. Donc effectivement, nous faisons partie de ces mécontents parce que nous vivons comme une injustice de ne pas pouvoir pratiquer et d'accueillir les enfants, les non-adultes dans nos activités. Mais pour tout vous dire et terminer sur ce sujet, C'est dire aussi que les maires sont souvent propriétaires des infrastructures et que c'est compliqué pour eux de savoir contrôler si elles peuvent garder ouvertes ou non ouvertes leurs installations en termes de responsabilité. Pardon.
Il y a enfin votre souci, même votre engagement, je pourrais dire, de faire payer le sport à sa juste valeur. Qu'entendez-vous par là ?
Sans faire de reproches ou sans imaginer qu'il faille enlever à Paul pour habiller Jacques ou pour subvenir plus à des besoins. Je pense qu'aujourd'hui, le sport est capital. Le sport a toujours été pour moi, qui suis un pratiquant de sport à tout jamais. Hein. J'ai attaqué au sport très jeune et je pense pouvoir le faire tant que je serai valide et tant que j'aurai un souffle de vie. C'est une activité capitale car elle contribue à la santé. Elle contribue à un complément d'éducation, elle contribue à l'économie de bien-être. Et donc, de fait, quand on regarde notre échelle de valeur, et quand je dis qu'il faut qu'on arrive à rééquilibrer, c'est qu'on ne se plaint pas de ce qu'on a, on est déjà très heureux de ce qu'on a, mais on pense qu'aujourd'hui, quand on prend le montant d'une licence pour les plus petites disciplines ou les moins chères, c'est 150 euros pour une centaine d'heures. C'est pour les plus petites cotisations de l'année pour une centaine d'heures, et après, quand c'est très cher, c'est 400 euros. Quand vous ramenez ça au taux horaire, sincèrement, je vous demande, pour les services rendus envers le pays, la citoyenneté, l'éducation et la qualité physique et la santé physique de nos concitoyens, à quoi on peut avoir, je crois que c'est même pas le prix d'un café à une terrasse de café. 1,50 € de l'heure, c'est même pas ça.
Oui, d'autant que les espoirs et les champions de demain, ils se recrutent dans le club sportif du quartier.
Alors merci de me tendre cette perche, évidemment. Beaucoup d'entre nous sommes parfois très en colère quand on voit des dispositifs très forts et très riches sur le haut niveau et sur la compétition. Mais évidemment, il faut se rappeler, et que chacun s'en rappelle bien, on ne peut pas séparer ce qui fait le vivier des grands champions. Où est-ce que naît un champion olympique, par exemple, puisque je défends l'olympisme ? Il naît d'abord dans un club, et parfois, et souvent, dans un club de quartier. Et souvent auprès de jeunes qui, en plus, n'avaient pas les moyens ou n'avaient pas dans l'idée de venir se former à un sport. Et tout est fait après par les disciplines qui les accueillent pour les accompagner au plus haut niveau. Et quand aujourd'hui on voit des grands champions comme Tony Estanguet, qui est aujourd'hui le patron du COJOP, évidemment que son discours a nous appelé à avoir toujours ce terreau de plus important de l'initiation et de la détection se fait sur le sport amateur, et le sport professionnel n'est que la partie visible de l'iceberg.
Toute dernière question, le sport que vous ferez jusqu'à toujours, c'est quoi ?
Alors, mon sport d'origine que j'ai malheureusement été obligé d'arrêter à cause d'un grave accident de moto, c'est le judo. Mais mon sport, c'est ne serait-ce que marcher. Marcher au moins une heure par jour, prendre un escalier plutôt que de prendre l'ascenseur. Et voilà, c'est cette activité physique. Alors, ce n'est pas un sport compétitif que je veux et que je souhaite pour tous les Français. C'est au minimum une heure d'activité physique. Et je plaide et nous avons inventé un dispositif qui s'appelle Sport Move et qui va amener et qui tente d'amener le sport au cœur de l'entreprise. Et là, il y a un vrai sujet avec le plan actuel qui est en révision devant l'Assemblée nationale, qui vient de passer au Sénat, et qui s'appelle le plan sport et société, sur lequel on veut développer ces activités et arriver à pousser, comme dans certains pays européens, alors oubliez le côté directif, mais rendre cette activité physique au moins obligatoire pour chacun d'entre nous, d'une à deux heures, et vous verrez qu'on ira tous beaucoup mieux.
Toute dernière question, parfois les municipalités accordent des subventions quand il y a un nombre de licenciés, à distinguer des adhésions d'amateurs. Est-ce que vous connaissez ça et quelle est votre position ?
Alors pour le coup, c'est aussi me permettre d'exprimer quelque chose que je défends de temps en temps. Le sport est un des rares domaines associatifs dans lequel les fédérations obligent à une licence pour une question d'assurance, donc de ces activités physiques. Et pour les communes, effectivement, nous pouvons avoir une double sécurité. Quand un club déclare avoir 300 licenciés, il suffit que l'adjoint au sport ou les services de la municipalité remonte sur la fédération d'origine, délégataire du ministère des Sports, pour savoir si oui ou non ce club a réellement 300 licenciés. Et donc le maire, pour ce coup, et l'ensemble de nos élus peuvent avoir une vérité transparente sur le sujet, parce qu'il y a plusieurs clés d'entrée de contrôle. Après, cela n'empêche pas qu'il faut aussi soutenir toutes les autres filières d'activité, qu'elles soient culturelles, associatives, sociales. Mais le sport a aussi cette qualité, c'est qu'il y a une déclaration de transparence et d'appartenance au monde fédéré, qui est aujourd'hui d'ailleurs mis en cause par ces avancées technologiques sur votre smartphone que vous devez avoir dans votre poche. Plein d'auto-entrepreneurs formés dans ces fédérations aujourd'hui proposent de l'activité complètement désorganisée, non fédérée, et sur lequel il n'y a pas forcément d'ailleurs toutes les assurances et toutes les capacités de recours au cas où il y aurait un souci.